Édite par le Père Philippe à Saint-Jodard, le 8 janvier 90.
Première vertu, c'est la prudence, qui vient purifier justement ce regard de l'intelligence pratique, pour que nous comprenions toujours avec netteté ce qu'est notre finalité proprement humaine, cette capacité d'aimer quelqu'un, d'aimer une personne. La manière dont nous pouvons réaliser cet amour. La prudence réclame un regard toujours plus pur, toujours plus purifié de l'intention profonde de notre volonté. Nous avons ensuite vu la nécessité des trois autres vertus cardinales, la tempérance, la force et la justice. Je crois que c'est très important pour nous de comprendre que la philosophie éthique n'est pas premièrement une philosophie des vertus, ce que fait le stoïcisme. C'est en premier lieu une recherche de l'activité humaine finalisée. Une activité humaine droite, en vue d'atteindre la fin. Mais étant donné notre conditionnement humain, qui implique un devenir, nous devenons des êtres qui ont un sens moral. Ça s'acquiert, le sens moral. Ce n'est pas inné. Il y a quelque chose d'inné, c'est notre appétit naturel. Au plan spirituel, c'est notre appétit du bonheur. Mais le sens moral s'acquiert progressivement. Et dans cette acquisition, il y a des obstacles, il y a des séductions, des tentations qui nous empêchent garder toujours c'est l'imaginaire lié à nos passions qui constamment nous empêche d'être dans la ligne droite, de respecter le prochain, de nous respecter nous-mêmes, de nous aimer vraiment. Et toutes les tentations de se replier sur soi, toutes les tentations qui consistent à ne pas s'aimer vraiment, cette phrase que vous avez dite, s'il n'y avait pas de différence entre l'union affective et l'union effective, le droit n'existerait pas. Ça, c'est une perspective critique à propos du jus, du droit. Parce que je vous avais montré comment le fondement de la justice, c'est le droit. Et comment saint Thomas insiste beaucoup là-dessus. Il a raison. Et que nous pouvons, lui, le faire en théologie, nous pouvons le faire en philosophie. En essayant de comprendre comment apparaît cette exigence de respecter le droit de l'autre. Alors, j'avais dit ça. C'est pour nous le jus. L'union affective, voyez ce que c'est? C'est l'intention. J'ai l'intention de bien agir. C'est la bonne intention. C'est celui qui a une âme bien rectifiée dans ses intentions. Mais on peut avoir de bonnes intentions et quelquefois se laisser prendre par des séductions. Ne pas avoir le courage d'aller jusqu'au bout des exigences de l'union affective en vue de l'union effective. C'est deux choses différentes. Et c'est très vrai que cette distinction est très très fondamentale. Vous voyez, il y a deux grandes distinctions qu'il ne faut jamais s'oublier au point de vue philosophique, au plan critique. La distinction entre l'intelligence spéculative et l'intelligence pratique. Distinction très importante pour nous, qu'Aristote a faite, que saint Thomas a repris. Aristote fait ça face à Platon. Et nous devons nous la reprendre face à la dialectique hégélienne. Dans la dialectique hégélienne, il n'y a plus de distinction entre l'intellect pratique et spéculatif. Quand vous dialoguez avec quelqu'un qui vit dans la dialectique hégélienne, vous voyez que c'est impossible d'accepter cette distinction. Dans le marxisme, ça n'existe pas. Alors on est tous plus ou moins pris par cette dialectique hégélienne, de droite ou gauche. Les gens bien pensants, c'est la dialectique hégélienne de droite. Les gens mal pensants, c'est la dialectique hégélienne de gauche. N'est-ce pas ? Mais au fond, on est tous un peu pris par cette dialectique hégélienne. Et dans cette dialectique hégélienne, il n'y a pas la distinction entre intellect spéculatif et pratique. Et la première manière d'échapper à la dialectique, c'est de comprendre la distinction entre l'intellect spéculatif qui recherche la vérité. Et l'intellect pratique qui essaie de montrer la droite orientation de l'opération morale, de l'opération humaine, disons. Nous avons quand même tout un fond de formation classique qui accepte cette distinction. Nos ancêtres sont quand même des théologiens et ils acceptent cette distinction. Dans la foi, on accepte la distinction entre la contemplation et l'action. On accepte la distinction entre la sagesse et la prudence. Vous comprenez ? Ici, j'aboutis à la sagesse. Là, à la prudence. C'est pas la même chose, la vertu de sagesse et la vertu de prudence. La vertu de sagesse est en vue de la contemplation. Et la prudence est en vue de l'action. Dans une perspective marxiste, il n'y a pas de contemplation. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Un contemplatif, c'est un oisif. C'est quelqu'un qui ne fait rien. Donc il vaut mieux le couper la tête. Parce qu'il mange encore. Alors s'il ne mangeait plus du tout, ça pourrait encore être supportable. Mais comme il mange, il n'est pas supportable. Parce qu'il est parasite. Et ça influe sur la mentalité des gens. C'est très vrai. On a beaucoup de peine à comprendre ce que c'est que la vie contemplative dans ce qu'elle a de tout à fait pur. Tandis qu'on comprend l'efficacité, l'efficience de la vie apostolique. Donc cette distinction-là et cette autre distinction entre l'union affective et l'union effective qui se fait à partir de l'intellect pratique. Oui. Donc il y a deux distinctions très importantes. Je ne dis pas de séparation. Distinction. Notre intelligence a deux grandes orientations. Et dans la seconde orientation, l'union affective, qui est du côté justement de la volonté. Oui, distinction de la volonté, distinction de l'intelligence. Alors, la distinction entre l'union affective, qui est subjective, et l'union effective, qui est objective. Cette distinction qui existe parce que nous devenons des êtres capables d'un sens moral. Nous devenons bons. On acquiert progressivement la bonté. Dans le berceau, vous n'êtes pas bon au sens absolu. Vous l'êtes substantiellement, mais vous ne l'êtes pas formellement. Parce que vous n'avez pas encore choisi votre fin. Vous êtes encore capable de dévier. Alors vous êtes bon fondamentalement, substantiellement, mais qui est une bonté matérielle au niveau moral, qui n'est pas la bonté tout court. La bonté morale, c'est celui qui a opté pour sa finalité, qui a choisi sa fin. Alors on est bon à ce moment-là, formellement bon. Bien, ce fait que cette bonté est d'abord atteinte intérieurement, subjectivement, par notre choix, mais qu'on ne l'a pas encore atteint réellement, réclame la justice comme gardienne de l'amitié. Ce n'est pas la justice qui détermine l'amitié. Mais étant donné notre conditionnement humain, distinction entre l'union affective et l'union effective, la justice devient gardienne de l'amitié. S'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas d'amitié. On le sait très bien. Quand il n'y a plus de justice, c'est l'anarchie. Il n'y a plus d'ordre. Et quand il n'y a plus d'ordre, il ne peut plus y avoir d'amitié. L'amour d'amitié présuppose la justice. Donc le respect du droit de l'autre. subjectif. C'est pas premièrement subjectif. C'est objectif. C'est parce que l'autre, qui est une personne humaine, a des droits. Et je la regarde telle qu'elle est. Donc vous voyez, pour que l'union affective devienne effective, il faut respecter le droit de l'autre. S'il n'y avait pas de distinction entre l'union affective et l'union effective, comme en Dieu. Dieu, il est un absolument simple. Il est amour, substantiellement amour. Il n'y a pas de distinction en Dieu entre sa justice et son amour. La distinction, elle vient de nous. Parce que Dieu est substantiellement bon. Il n'y a pas de distinction entre union affective et union effective. Donc, il ne peut pas y avoir de distinction entre l'amour et la justice. Alors que pour nous, il y a une distinction entre l'amour et la justice à cause de ça. Mais c'est pour mieux comprendre la naissance du jus, du droit. Et mieux comprendre la différence qui existe entre l'amour d'amitié et la justice. Et le rôle propre de la justice par rapport à l'amour d'amitié. Donc, je n'insiste pas plus. Oui.
Dans un état de justice originelle, est-ce que ça aurait été nécessaire de poser ça ?
Oui, parce que notre conditionnement humain est toujours le même. L'état de justice originelle faisait que nous étions des créatures. Dans toute créature, il y a une distinction entre l'union affective et l'union affective. Il n'y aurait pas eu la corruption, mais l'union aurait existé. Il y aurait eu une distinction entre la justice et l'amour. Puisque la grâce ne supprime pas la nature. Et que c'est à cause du devenir conditionnement humain. Vous voyez, je ne suis pas immédiatement uni à ma fin. J'ai besoin de conquérir ma fin. C'est pour ça qu'il y avait une épreuve. Vous voyez, s'il n'y avait pas de distinction entre union affective et union affective, il n'y aurait pas possibilité de culpabilité. C'est la distinction entre l'union affective et l'union affective qui explique la possibilité de la faute. La possibilité de l'orgueil. C'est pour ça que c'est très important, cette distinction. Parce que dès qu'on la supprime, psychologiquement, on la supprime. C'est pour ça qu'il n'y a plus de faute. Je suis sincère, donc je n'ai pas péché. La sincérité ne respecte pas la distinction entre union affective et union affective. Oui, c'est très intéressant de voir ces choses-là, parce qu'on voit que la dialectique moderne supprime cette distinction et la psychologie moderne, qui est encore dialectique, supprime cette distinction. C'est pour ça que nous avons de la peine à les retrouver. Et s'il n'y a plus la distinction entre union affective et union affective, il n'y a plus la possibilité de comprendre la faute. Sincérité jusqu'au bout. n'y a plus de loi. C'est extraordinaire, ça. Mais je suis dans une dialectique de sincérité, des sincérités successives. Aujourd'hui, parce qu'il y a du soleil, j'ai cette sincérité. Ce soir, il fera noir, j'aurai une autre sincérité. Plus obscure. Il y a des sincérités plus ou moins limpides, lucides et plus ou moins, moins limpides, au trouble. Et donc il y a des degrés de lucidité dans la sincérité. Mais la sincérité n'implique plus de distinction entre union affective et union affective. Bon. Alors, toute cette partie, l'éthique, qui étudie l'acte humain, dans ce qu'il a de plus fondamental, et dans sa première finalité, demanderait de s'achever dans une éthique politique et le point de vue de la famille. Je ne fais pas parce que distinguons exprès éthique et politique. Mais les distinctions qu'on retrouve au niveau éthique, on les retrouverait au niveau politique. C'est ça qu'il faut bien saisir. On pourra revenir une fois là-dessus, si on a le temps. Je voudrais, alors, à partir de maintenant, étudier la seconde dimension de notre éthique, l'éthique religieuse. Et je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, nous devons toujours bien distinguer les deux, pas les séparer, surtout pas, puisque l'éthique religieuse implique et assume l'éthique de l'amour d'amitié. Mais l'éthique de l'amour d'amitié n'implique pas l'éthique religieuse. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre à quel moment apparaît l'éthique religieuse. Vous avez affaire aujourd'hui à des quantités d'hommes qui n'ont plus aucun sens de l'éthique religieuse, et qu'on appelle la sécularisation. C'est vrai, les hommes qui ne croient absolument plus dans l'existence d'un être supérieur, d'un créateur, de Dieu, qui sont pires que les païens, c'est pas, parce qu'ils ont rejeté Dieu. Le païen comme tel ne sait pas très bien qui est Dieu. Vous avez des formes variées de recherche de Dieu. Alors il y a quelque chose de l'éthique religieuse. Alors, le philosophe prend tout de suite l'éthique religieuse dans ce qu'elle a de plus parfait. Il sait très bien que l'éthique se réalise selon des modalités plus ou moins parfaites, exactement comme l'éthique de l'amour d'amitié. Ça se réalise avec une lucidité plus ou moins grande, mais le philosophe doit, lui, chercher la plus grande lucidité. C'est le propre de la philosophie. Parce qu'il ne cherche pas l'aspect descriptif, mais il cherche à saisir les principes propres qui commandent l'éthique, une philosophie éthique. Alors, quand apparaît une philosophie religieuse, une éthique religieuse, quelles sont les conditions nécessaires pour qu'une éthique religieuse apparaisse ? Première condition, religieuse uniquement juive. Tradition religieuse animiste, africaine. Vous avez de multiples traditions religieuses. Eh bien, chacune de ces traditions religieuses va donner naissance à une certaine éthique religieuse qui est différente pour l'Asie, l'Afrique, la Grèce, l'Europe. Si je prends l'Europe qui vit de tradition judéo-chrétienne, alors ça c'est très intéressant à faire. Je ne vais pas le faire avec vous. Mais c'est très intéressant à faire. Il faut s'intéresser à ça. C'est facile de regarder quelles sont les traditions religieuses de ces divers pays et voir par le fait même comment c'est élaboré à la lumière de ces traditions religieuses. Certaines éthiques religieuses. Exemple très simple par rapport au mariage, la polygamie ou la monogamie. Toutes les deux sont commandées par des éthiques religieuses. Ça, c'est très vrai. Tradition religieuse de l'islam, par exemple. La polygamie. Et dans cette polygamie, la possibilité d'une monogamie. Tradition religieuse par rapport au culte, par rapport à la liturgie, par rapport aux initiations religieuses, marquant les grandes étapes humaines, par rapport aussi alors les déviations, les superstitions, mais qui quelquefois ne sont pas distinctes de certaines initiations. Dans certains moments particuliers, il faudra des sacrifices. Au début de l'année. Le début de l'année n'est pas le même, selon les différents moments. L'année bouddhiste ne commence pas, selon les traditions bouddhistes, en même temps que l'année, selon les traditions judéo-chrétiennes. Commencer l'année par Noël, par l'Avent, c'est selon les traditions judéo-chrétiennes. Ce n'est pas l'année civile. L'année civile commence le 1er janvier. Hein, pourquoi ? Vieille tradition qui dépend un peu de tradition religieuse, mais ils ne sont pas les mêmes selon les différents aspects. Bon, et là, un simple appel. Deuxièmement, l'éthique religieuse ne sera parfaite parce que ces éthiques religieuses demeurent imparfaites quand elles sont en dépendance des traditions religieuses. Elles restent multiples, diverses, parce que toutes les traditions, quand il n'y a que les traditions, ça charrie des quantités de choses plus ou moins pures, plus ou moins nettes. C'est comme des torrents. Le petit avion ne sait pas. Je connaissais quelqu'un à Fribourg, à Douai, en Suisse, à Neuchâtel, qui était une très grande spécialiste des traditions de l'Inde. Elle a même écrit un livre. Elle avait fait toute une enquête pour savoir si dans certains gestes liturgiques on comprenait encore la signification de ces gestes. Et elle s'est aperçue que la plupart du temps on ne savait plus du tout. Alors elle cherchait pourquoi on allume des bougies pour la messe. Vous voyez, on est passé du religieux à l'économique. novice, pourquoi il doit allumer des bougies s'il sert la messe? Tu permettre. Et la messe conventuelle, pourquoi deux, pourquoi trois, pourquoi quatre, pourquoi cinq, pourquoi six, pourquoi... Pourquoi? Ah, ça fait bien. Pourquoi l'encens? Sans comprendre. On doit poser la question, mais pourquoi? Pourquoi l'encens? Pourquoi certains gestes et pas d'autres? Pourquoi pas d'enfant de cœur quand on est dans la vie monastique? À la messe de tous les jours. Parce qu'on va pas les fatiguer. Vous voyez, on vit de tradition. Alors ils acceptent, tout simplement. Alors on peut tomber dans l'obscurantisme religieux qui s'appuie sur les traditions. Les traditions religieuses sont multiples. Il n'y en a pas qu'une. Nous pouvons les hiérarchiser. Au nom de quoi? Pour dire la tradition judéo-chrétienne est la plus parfaite de toutes les traditions religieuses. J'en suis convaincu. Mais est-ce que j'en suis convaincu philosophiquement ou à cause de ma foi? Pour en être convaincu philosophiquement, il faut que j'établisse l'éthique religieuse qui est fondée sur la découverte métaphysique, philosophique, de l'existence de l'être premier, acte pur, créateur. Donc vous voyez, et je crois ça très important, hein, très important pour nous. Comme toujours, hein, c'est un petit aspect critique. Donc, si je parle de l'éthique religieuse, je vois deux fondements. Premièrement, tradition religieuse. Ici, diversité. À partir de ces traditions religieuses, diverses éthiques religieuses. Deuxième fondement, alors la philosophie métaphysique, la découverte de l'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, le Dieu créateur. C'est très curieux et c'est très important de comprendre que ce second fondement, qui est de l'ordre philosophique, me permet de juger quelles sont les traditions religieuses les plus authentiques. Parce que je crois que c'est bien la vérité. philosophie peut critiquer les traditions religieuses. Alors, il faut bien comprendre toute la différence qui existe entre tradition religieuse et foi. La foi surnaturelle est un don direct et personnel que Dieu a fait à chaque personne humaine, indépendamment du contexte dans lequel je suis. Tandis que les traditions religieuses dépendent du contexte dans lequel nous sommes nés. Si nous sommes nés dans une famille chrétienne, si nous sommes nés dans une famille musulmane, si nous sommes nés dans une famille païenne, on voit très bien que les traditions religieuses sont très différentes. Les traditions religieuses sont liées aux traditions familiales, aux traditions éthiques. Et donc, elles impliquent des quantités d'éléments qui sont tout à fait distincts de la foi. Vous voyez, la foi est un don de Dieu, personnel. Les traditions religieuses, c'est l'homme qui répond à l'appel de Dieu, à sa manière. Les traditions, c'est l'œuvre de Dieu et de l'homme, si j'ose dire. C'est une alliance de Dieu et de l'homme. Puisque toute tradition, les choses présupposent une certaine lumière intérieure qui fait qu'on regarde un être premier. Le Verbe de Dieu éclaire tout homme venant dans ce monde. Donc il y a une première lumière donnée à tout homme qui a permis ces traditions animistes. Traditions religieuses animistes. Il y a une certaine lumière qui a été donnée à travers Bouddha. D'où tradition religieuse. À travers l'islam. À travers le peuple d'Israël. À travers une Europe chrétienne. Il reste des traditions religieuses. Mais ce n'est pas la foi. Ces traditions religieuses sont peut-être différentes en France, en Espagne, en Allemagne, en Amérique. Il y a des différences. Le libéralisme a plus ou moins teinté ces traditions religieuses. Au contraire, le traditionnalisme a teinté ces traditions religieuses. Une tradition, ça ne bouge pas, parce que quand on commence à bouger une tradition, on ne sait pas jusqu'où ça ira. Donc, il vaut mieux que ça reste toujours la même.